Bienvenue à cette quatrième soirée de notre séminaire sur la durée des analyses, ses raisons. Aujourd'hui, nous allons, comme les autres fois, entendre deux interventions. L'une d'Elisabeth Etamer, qui est psychanalyste, elle vient du Brésil. Mais elle vit à Paris et elle travaille à Paris. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle a été une excellente secrétaire du bureau qui a fini ses fonctions l'été dernier. Et ensuite, nous entendrons Jean-Michel Ardure, qui lui vient de moins loin, qui vient de Bretagne, de Rennes, qui est psychanalyste et travaille comme tel à Rennes aussi, à Rennes, oui. Et je vais donc commencer par passer la parole à Elisabeth et ta mère. Vous verrez que l'un et l'autre, chacun dans leur style, vont se concentrer sur la fin de l'analyse, tout en faisant bien attention à essayer d'ordonner ce qu'on peut appeler les moments du parcours analytique. J'ai eu l'occasion de lire les deux interventions avant de venir, et il y a beaucoup de points communs, entre autres cet effort d'ordonner les choses et d'argumenter ce qu'ils avancent. Alors je passe tout de suite la parole à Elisabeth, qui a intitulé son propos « La durée des analyses, raison et contingence ».
Merci Sol. Je commence par une évidence. Poser la question de la durée des analyses, c'est présupposer qu'elles ont une fin. Sinon, pourquoi nous poserions-nous la question de leur durée ? Dans cette dialectique durée-fin, qu'est-ce qui permet de conclure ou, inversement, qu'est-ce qui l'empêche? Le titre que j'ai donné à mon intervention est pratiquement en décalque du thème de l'année. J'ai ajouté les termes « contingence » car il me permet de soulever un autre aspect. Il y a d'une part des raisons, c'est-à-dire des explications, des élaborations théoriques que l'on trouve dans la littérature analytique depuis Freud et qui apporte des contributions diverses et variées concernant la fin des analyses. D'ailleurs, la complexité de la question avait déjà été soulevée par Freud lui-même dans son texte « Analyse finie, analyse infinie » dont les titres résument bien les propos qui nous réunissent cette année. Il y a pourtant, d'autre part, des contingences, c'est-à-dire des variables individuelles et des rencontres inéliminables et qu'aucun didactisme ne peut programmer. Je dirais qu'il y a conclusion et conclusion. Aucune n'étant plus légitime qu'une autre, il appartient à chaque analysant les choix de supporter les conséquences de chaque que chaque conclusion apporte. Disant qu'il y a des conclusions et conclusions, j'ai dit non seulement que les formulations sur la fin de l'analyse sont multiples depuis Freud, mais aussi qu'à l'intérieur de l'enseignement de Lacan, il y a des élaborations successives. Ces élaborations ne se contredisent pas forcément, mais elles apportent à chaque fois une élaboration nouvelle qui contribue en réalité à formaliser de façon plus soutenue ce que l'on entend par une fin de l'analyse. Qu'est-ce qui empêche un sujet de conclure son analyse? On a parfois le sentiment que le sujet résiste de toutes ses forces à la conclusion. Il a souligné les bouts de savoir que l'analyse pouvait lui apporter, et pourtant, il ne conclut pas. Il attend encore. Mais qu'attend-il? Il me semble que pour qu'une analyse ne dure pas à l'infini, pour qu'elle aboutisse à une conclusion, disons finale, un changement radical du sujet à l'encontre du savoir est requis. L'analyse suppose la remise en question du savoir. Pour vous donner une idée du nœud de la question, il suffit d'aligner deux formules concises de Lacan, l'une qui définit les transferts, l'autre qui définit l'inconscient. Pour les transferts, il dit ceci, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. C'est dans l'introduction à l'édition allemande. Sur l'inconscient, il dit qu'il y ait de l'inconscient veut dire qu'il y a du savoir sans sujet. C'est compte-rendu sur l'acte analytique. Dès la confrontation de ces deux formules, on peut soulever d'emblée au moins deux constats. Premièrement, l'attente initiale du sujet est vouée à être déçue. Deuxièmement, s'agit-il vraiment du même savoir dans les deux formules ? Nous y reviendrons, mais il me semble évident que le savoir convoqué dans la deuxième formule ne peut pas assurer la satisfaction de ce qu'attend l'amour transférentiel dans la première formule. La question qui s'impose donc est d'examiner quel est le savoir qui est convoqué dans ces deux définitions. S'agit-il ici d'une homonymie au sens strict, c'est-à-dire d'un même nom pour désigner deux choses différentes ? L'analyse elle-même, ainsi que les élaborations de Lacan, semblent montrer que oui, les mots sont bien les mêmes, mais ne veulent pas dire la même chose. J'y reviendrai aussi. Au commencement de l'expérience analytique fut l'amour, disait Lacan au début de son séminaire sur les transferts, dont la définition sera complétée plus tard avec la formule concise que je vous ai déjà évoquée, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Cette définition réunit ainsi la charge affective du transfert, l'amour, et la visée épistémique de l'analyse, les savoirs. De quel savoir s'agit-il dans cette formule qui décrit d'une certaine façon l'entrée en analyse, parce qu'elle décrit le transfert. Les transferts analytiques font apparaître pour les sujets qu'il y a du savoir supposé à l'inconscient. Savoir qui est du surcroît, supposé par l'analysant à l'analyse. Celui à qui je suppose le savoir, je l'aime, dit Lacan dans mon corps. L'analyse génère donc une attente du savoir, attente entretenue par l'interprétation et le déchiffrage. L'amour transférentiel laisse les sujets en haleine, ce qui peut aller jusqu'à l'espoir d'accéder à un savoir qui lèverait enfin les refoulements, ce qu'il suppose, le sujet imagine, être curatif. Les premiers effets analytiques laissent donc chez les sujets l'espoir que ce savoir est à sa portée. Qu'est-ce que ces savoirs-là ? Quelle est la nature de ces savoirs qu'attend l'analysant de son analyse ? L'analysant attend d'abord, et pour longtemps, un savoir qui se présente sous la forme des sens et des vérités. Savoir qu'il suppose pouvoir déceler sous chacune des bévues de l'inconscient, y compris devant la plus coriace de ses formations, les symptômes. Certains symptômes disparaissent, d'ailleurs, au long de l'analyse, ou sont du moins dévalorisés et dépouillés de leur investissement d'énergie, pour utiliser une expression de Freud. Ces effets thérapeutiques obtenus à partir de la pratique de l'association libre laissent l'analysant espérer que ce sera comme cela pour tout autre symptôme. L'attente du sujet d'obtenir une révélation sur ce que son inconscient trame à son insu est cependant vouée à être déçue, et de façon réitérée du fait même de la structure du langage. On attrape un sens, il y en a d'autres qui surgissent. On dévoile un bout de vérité, l'autre moitié se dérobe. Impossible d'attraper des sens ou de dire la vérité. La nature métonymique du signifiant ne peut pas garantir un S2 qui capitonne une fois pour toutes un signifié suffisamment solide pour tarir la fuite de sens. Plus un sujet essaye de saisir en analyse, plus son être se dérobe et nul ne peut y échapper. Les sujets s'y heurtent ainsi, inexorablement, à un certain réel, celui qui nécessairement est mis à jour comme impossible dans les symboliques qui la cure mobilise. Cependant, face à cet impossible à savoir que l'analyse démontre à l'analysant, celui-ci peut préférer plutôt croire que c'est de sa propre faute s'il n'atteint pas les savoirs espérés, qu'il n'a pas encore fourni tout l'effort nécessaire pour y parvenir. Ou, au contraire, attribuer la faute à celui à qui il suppose savoir. Autrement dit, c'est la faute de l'analyste qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Certains décident alors d'entamer une nouvelle tranche d'analyse, espérant que cette fois-ci, ce sera la bonne, que cela va se passer différemment. Tout lui est préférable à la décision de tirer les conséquences du caractère non conclusif des bouts de savoir qu'il a pu acquérir dans l'analyse. Certaines analyses s'arrêtent là, avec un « ça suffit », et les aspects qui accompagnent cette conclusion ou interruption sont variables. Ce qui me semble certain, c'est que dans ces cas, les gains épistémiques est, dans les meilleurs des cas, celui d'avoir éprouvé une certaine limite du travail des déchiffrages, sans forcément outrepasser les sentiments d'impuissance vers l'assurance de l'impossible, voire l'étourdi, ce qui est déjà un bénéfice analytique fort soulageant. Si l'analysant ne se décourage pas, que peut-il s'y passer ensuite? J'ai dit ensuite, mais c'est un forçage de démonstration de ma part, car ces temps ne me semblent pas être ordonnés dans un ordre chronologique préétabli. Je continue. Bon. Certes, il faut du temps pour se dire. Avec les temps, quelque chose se dégage dans l'analyse, se dégage parce que ça se répète. L'analyse fait apparaître non seulement ce qui manque à savoir, mais aussi quelque chose qui s'y montre, disons, positivement. Dans télévision, Lacan affirme que les discours analytiques répondent à la question « Que puis-je savoir ?» par ceci, rien qui n'est la structure du langage. Par la voie du langage, donc, quel est le maximum de savoir qu'un analysant peut obtenir de son analyse? J'entends par là une réponse positive en opposition aux négativités de la structure langagière que l'analyse révèle. Colette Soler a beaucoup travaillé sur ça. Les summums de ce qu'on peut rendre compte peu ou prou en termes de savoir articuler, c'est des fantasmes. Aperçu en éclair ou pas, scénario développé en une phrase nette ou pas, une fois devenu en analyse, les fantasmes assèchent l'attente du sujet quant au sens et à la vérité. Ces scénarios condensent les seuls sens possibles que l'analyse peut livrer au sujet. L'autre perd la consistance, car ces scénarios tissés entre symbolique imaginaire vacille dévoilent au sujet la nature, la structure pardon, des fictions qu'il a écrit avec un X, qu'est son fantasme. Cet instant du fantasme, c'est un terme qu'il utilise en position de l'inconscient, éclaire d'un seul coup les montages qui faisaient tenir l'autre et la jouissance du sujet qui s'était associé. J'ai dit qu'on peut rendre compte peu ou prou du fantasme en termes de savoir articuler, car sa construction implique aussi l'objet petita, qui, du fait d'appartenir aussi au régime du réel, ne peut pas être dit. Les fantasmes est ainsi ce qu'il y a de plus cognoscible, entre guillemets, pour un sujet. C'est dont il pourra témoigner au mieux concernant sa position de jouissance. C'est le maximum de sens que l'analyse peut obtenir. Ce que le fantasme révèle au sujet lui est finalement parfaitement familier. Tous les travaux de déchiffrage analytique s'y trouvent ainsi subsommés, résumé dans cette vérité menteuse. Il y a pourtant là un gain épistémique de grande portée, me semble-t-il, contrairement à l'interruption que j'évoquais précédemment. Ces gains de savoir-là, liés au fantasme, peuvent alléger durablement la vie du sujet, car, de consistant l'autre, les rapports du sujet se trouvent modifiés. Ce n'est pas mal du tout. Est-ce suffisant pour conclure ? Lacan avait l'air de le penser, du moins pendant un certain temps, me semble-t-il. Mais il élabore encore un autre point qui concerne les statuts de l'inconscient lui-même. Et cela, j'en suis convaincue, n'est pas seulement une complication de plus ajoutée à ces élaborations. Elle permet de voir comment les discours analytiques instaurent un dispositif qui permet que le réel touche au réel. Pour employer une expression utilisée, cette expression dans le compte-rendu sur l'acte analytique. Lorsque Lacan affirme que l'inconscient est savoir sans sujet, thèse en quelque sorte solidaire d'une autre qui dit que l'inconscient est un travailleur idéal, qu'il est savoir qu'il ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge, cela implique que les sujets doivent tôt ou tard dire adieu à son espoir d'atteindre le savoir dont il a longtemps rêvé. Le savoir qui agite et agitera l'inconscient n'est pas un savoir sens ni un savoir vérité, mais du savoir jus. Jouissance d'une lettre, c'est-à-dire de ce qu'à la différence du signifiant est identique à elle-même. Ça pour les symptômes. Les grands historiques de la langue, dont est fait l'inconscient, ne pourra jamais être épuisé, quoi qu'on fasse. Voilà donc la différence des statuts du savoir dans les deux formules qui balisent mon intervention. Qu'est-ce qui est possible alors? Ça ressemble à la musique de Carla Bruni, non?
On n'est pas la musique de Carla Bruni.
Qu'est-ce qui est possible alors? Il faut que je change cette phrase. Bon, je continue.
Ça a résonné soudain.
Ah oui. Non, pas soudain, c'est déjà avant. Je n'ai pas trouvé meilleur. Il arrive que pour un sujet, sans qu'on sache exactement comment, tout d'un coup, un trébuchement quelconque de l'inconscient, un trébuchement ordinaire, comme tant d'autres trébuchements, qu'il s'acharnait auparavant à déchiffrer, lui apparaît tout d'un coup hors sens. S'il n'a aucun sens, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une bévue extraordinaire, mais elle apparaît hors sens parce qu'elle ne convoque chez le sujet aucune libido interprétative. Cela le surprend. Certains témoignages de passe font d'ailleurs état de cette surprise. Hors des prises et hors des sens, il affecte néanmoins le sujet. Ces moments-là impliquent, me semble-t-il, la sortie définitive du transfert, car cet événement porte un coup de grâce au savoir-sens et, a fortiori, au savoir supposé à l'analyse. Certes, les vacillements du fantasme avaient déjà entamé son désert, mais là, c'est la liquidation de tout sujet supposé au savoir de l'inconscient. Cette question semble très difficile, mais elle est certainement plus simple qu'elle ne le paraît. Elle paraît très compliquée au premier abord, parce que nous sommes contraints, pour en rendre compte, de passer par les langages. En réalité, la question de cet inconscient réel est moins complexe que ce qu'on y suppose. C'est ça que je pense en tout cas. Ces moments ou cet instant où l'on peut éventuellement éprouver quelque chose de ce réel-là, hors sens, n'a rien, absolument rien de transcendantal. Il s'agit d'une bévue de l'inconscient comme des centaines d'autres auxquelles le sujet a eu affaire tout au long de son analyse. La seule différence étant que cette fois-ci, et pour la première fois, elle l'affecte différemment. C'est-à-dire que cette bévue ne convoque chez lui aucune espèce ni de sens ni de souhait de l'éprouver. C'est comme si le sujet réalisait, si vous me permettez ce néologisme, cet inconscient qui un jour il a changé de faire sien, de se l'approprier comme sujet. Il n'a pas besoin d'être bilingue, par exemple, pour éprouver la résonance étrangère de ces moments. L'inconscient est fait de la langue, terreau radicalement singulier, essentiellement néologique, indépendant donc de la langue ou des langues que le sujet a pu apprendre dans sa vie. Cet événement, dans lequel on ne s'installe pas, qui ne sera jamais un lieu touristique, qu'a-t-il de si particulier? Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il affecte le sujet. Il l'affecte dans l'affect inédit qui surprend. Pourquoi un affect peut-il prouver quelque chose? Parce que c'est un effet qui s'éprouve au niveau du corps, qui n'est pas un effet de sens, mais effect, qui surgit là où les signifiants déclarent forfait, y compris pour conclure. J'ai une question, probablement sans réponse, que je vous soumets tout de même. Je me demande si cet événement, cette manifestation, où l'inconscient se manifeste comme réel, n'est pas justement signe de quelque chose, c'est-à-dire signe que quelque chose a été touché auparavant du côté du sujet quant au savoir. Je laisse la question ouverte. Dans mon argument, j'affirme que les raisons de la durée des analyses étaient plurielles. Et je me demandais si ces raisons avaient trait à l'analysant, à l'analyste, à la structure ou au réel. Il y a, comme j'ai pu le développer, des raisons liées à la structure langagière qui, par sa propre nature, ne permet pas de conclure. Elle peut, au mieux, faire apparaître un réel qui est propre aux limites du langage. Il faut du temps pour cela. Il y a encore un autre réel, orthographique, qui est donc hors des prises par le déchiffrage et qui peut néanmoins mettre un terme à la quête infinie de sens et de vérité. Ces points, formalisés par Lacan, n'éliminent pourtant pas la singularité de chaque analyse. Ce qui est certain, c'est que pour conclure, il faut une décision du sujet, éthique, si inexplicable qu'intime, qu'aucun analyste ne peut la prévoir. Elle est éthique car les sujets en assument les conséquences, parmi lesquelles celle d'une vie sans ses partenaires privilégiés qui fut son analyste, partenaires d'un lien instable, chose rare en ces temps où le capitalisme met à mal les liens sociaux. Nous pouvons nous demander aussi si l'analysant qui fait partie d'une communauté analytique ne se sert pas de la doxa du moment pour ajourner sa conclusion. Autrement dit, si les sujets essayent d'y trouver un modèle de conclusion ou s'appuyer, là où les savoirs qu'il attendait de son analyse fait défaut. Cela pourrait vouloir dire que son rapport au savoir n'a pas été encore complètement modifié. Est-ce qu'un analyste peut être responsable de la durée de l'analyse? La question est épineuse. Je me risquerais cependant à en dire quelque chose. Il y en a une base consensuelle, au moins pour les analystes lacaniens, me semble-t-il. L'avènement du désir de l'analyste, expression que l'on répète à tort et à travers, et qui m'a toujours interpellée car il me semble qu'elle tourne parfois à vide, étant devenu une sorte de fourmile creuse. Que veut dire cela? Je me contente, pour moi et pour l'instant, d'une lecture très simple, qui est celle-ci, les désirs de l'analyste, mais pas les désirs du sujet. C'est bête, mais cela suppose au moins que l'analyste soit suffisamment instruit sur son fantasme pour ne pas opérer à partir de lui. C'est une conclusion, une condition sine qua non, préalable à sa fonction, c'est le béaba. Ensuite, ce serait profitable pour son analysant que l'analyste ait pesé la limite d'une pratique liée au sens et la jouissance qui peut s'y ajouter. Toute interprétation doit tenir compte du réel. toutes les formes d'interprétation que Lacan a pu formuler, d'ailleurs, de la ponctuation, de la coupure jusqu'à l'équivoque, visent le réel. Elles visent, par exemple, l'intervalle de la chaîne signifiante ou faire résonner l'équivoque pour briser l'essence d'un mot. On peut chercher d'autres formes chez Lacan, mais elles pointent toutes vers le réel. C'est le sujet qui met du sens, il suppose un savoir. L'interprétation vise donc le réel, qui doit le viser, et cela dès le début de l'analyse. Des années durant, suite à une interruption des séances, par exemple, l'analysant se dira « mais qu'est-ce que j'ai dit ?» ou « qu'est-ce que l'analyste a entendu de ce que j'ai dit ?» Il suppose un savoir. C'est le propre du transfert comme amour du savoir. Il me semble que l'interprétation coupure, réitérée, celle qui ne capitonne pas, pourrait favoriser que l'analysant puisse un jour, à partir d'un certain temps, prendre acte de la jouissance implicite au bavardage qu'est devenue aussi son analyse à la fin. Cela pourrait contribuer à conclure, ou pas, contingence. Ce qui me semble essentiel, c'est que l'analyste puisse reconnaître qu'en son analysant, s'approche de ces basculements vers le réel qui subvertit son rapport au savoir, ce qui est finalement un changement de discours. Qu'il puisse le reconnaître veut dire qu'il s'y tait. J'entends par là qu'il ne demande pas à son analysant de faire encore un effort de sens. Si Lacan a pu affirmer un jour que l'analyste fait partie du concept d'inconscient, puisqu'il en constitue l'adresse, cela veut dire que la direction d'une analyse dépend aussi forcément de la conception qu'a l'analyste de l'inconscient, car de cela dépend sa réponse.
J'ai déjà entendu au premier rang un très bien que je ne vais pas reprendre. Je passe tout de suite la parole à Jean-Michel Arzur, qui a intitulé lui son propos « Être dans la hâte » et qui, vous allez l'entendre, d'une toute autre façon, je dirais, qu'Elisabeth, va quand même suivre un chemin analogue avec des formules, je me permets de dire ça avant de lui passer la parole, savoureuses qui lui appartiennent. À vous, Jean-Michel.
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Je commencerai ce soir par cette expression que l'on prête volontiers à Woody Allen, qu'il aurait puisée chez Kafka. Cette formule dans la bouche de quelqu'un qui a pu éprouver ce qu'est la durée de l'analyse pose une question essentielle. Qu'est-ce qui fait que l'analyse peut s'éterniser ou apparaître pendant un temps singulier à chacun comme une éternité? Il arrive en effet que l'on fasse l'expérience de l'impossible de la conclusion parce que rien ne vaut pour conclusion. Quelque chose manque, fait défaut, malgré tout le chemin effectué, les allègements symptomatiques, le savoir plein les armoires. Ce temps de l'analyse m'apparaît dans l'après-coup tout aussi imprescriptible que le temps qu'il faut pour se dire. C'est donc de la sortie que je tenterai de parler, mais en tant qu'elle répond à l'entrée dans l'analyse et de la durée de l'analyse elle-même. Force est de constater qu'entrée et sortie ne répondent pas à la même logique, même si dans les deux cas, un acte est nécessaire. L'acte de l'analyste, puis l'acte de l'analysant. L'entrée dans l'analyse est tout d'abord une entrée dans un temps logique. Lacan en a parlé du début à la fin de son enseignement. L'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure sont les trois dimensions spécifiques de ce rapport temporel du sujet à l'autre qui, sans acte, s'éternise. Ces trois dimensions trouvent leur nouage par l'acte, écrit Michel Bousséron. L'acte de sortie répond donc bien de la manière dont le sujet est entré dans l'analyse. Si, comme le dit Freud, les processus inconscients sont frappés d'intemporalité, si le refoulé demeure inaltérable, insensible au temps, nous pouvons quand même supposer que le névrosé hors du temps dont parle Freud fait son entrée dans le temps lorsqu'il devient analysant, c'est-à-dire lorsque la marque traumatique peut entrer dans la chaîne signifiante. C'est un temps régi par la logique langagière et notamment le nartreglisch, l'effet d'après-coup, qui va produire un ordonnancement, un capitonnage dédié du sujet, que l'on va retrouver à l'échelle de la séance comme de l'analyse elle-même. Il s'agit que ce qui pousse à dire, le signifiant qui manque, le moins un de la chaîne, soit pris dans le discours, que le sujet s'en empare pour le constituer comme manque à être, comme question qui donne les formes cliniques que nous connaissons. Ce moins un de la chaîne est ce qui permet le bouclage de la signification, mais aussi sa relance à l'infini, contrainte du sujet à dire. Si j'ai commencé par la fin et la possible éternisation de l'analyse, elle est d'abord marquée par une autre forme de hâte qui donne son rythme, qui lui donne son rythme pendant des années. Cette hâte est celle du sujet en attente d'avoir un plus de sens sur l'être, mais elle est aussi liée au fait que le symptôme entre également dans la temporalité du sujet. C'est donc le sujet et sa jouissance qui entrent dans cette logique, ce qui éclaire cette concentration libidinale sur le procédé qu'évoque Louis Siskovitch. Pendant ce temps pour comprendre, ce n'est pas la durée qui importe, il n'y a pas là de sentiment d'éternisation de l'analyse. Le temps ne fait pas forcément problème dans la mesure où la vie entière du sujet s'inscrit dans l'analyse. Le sujet a donc affaire au manque à être et à cet en plus, cette fixité de jouissance inassimilable qui existe, soit deux formes du même impossible. Il faudra tout d'abord qu'il s'y acclimate en l'approchant dans ce temps qu'il faut pour se faire à être, mais il faudra aussi, au terme de l'expérience, pouvoir en supporter les conséquences. Si nous pouvons repérer en quoi ce trauma du sujet est ce qui va constituer ce pouce à dire et donc produire ce temps nécessaire d'ouverture de l'inconscient, c'est aussi ce qui, logiquement, vient constituer un terme au déchiffrage. Le pouce à dire devient au fur et à mesure de l'analyse ce qui ne passe pas dans la parole et vient en faire consister l'aporie. Ce réel qui objecte à la conclusion par les formations de l'inconscient est ce défaut initial, point de manque, impensable autrement que des effets dont il se marque, dit Lacan. Toute la quête du sujet, tout le savoir produit, sont mobilisés par un savoir comme impossible et ce qu'il faut de temps dans une analyse est lié par Lacan au long travail de l'analysant pour pouvoir faire trace de ce qui a défailli à s'avérer d'abord. Nous retrouvons dès radiophonie cet équivoque homophonique entre faillir et falloir qu'il reprendra dans cette leçon d'encore. À la faute, fallere signifie tomber, répond le nécessaire du verbe falloir. Le falsus, chu en latin, est mis en position de cause, de symptôme par Lacan, et il revient au sujet la nécessité d'y répondre, puisque c'est précisément là la faille dont se dit l'être. Une fois éclairé ce qui donne le rythme de l'analyse, il nous faut aborder maintenant ce qui peut se passer une fois les identifications mises en cause, l'aperçu du fantasme, le repérage de moments de passe réitérés dans l'analyse. Cela peut durer encore et encore. On peut le mettre sur le compte du transfert qui, écrit Michel Bousséroux, déborde très largement ce que l'analyse permet d'en faire chuter par la destitution du sujet comme supposé savoir. Il souligne dans son texte la coalescence du transfert et de la structure névrotique que Lacan évoque dans le séminaire d'un autre à l'autre. Puisque nous sommes invités à parler de notre expérience, je le fais aussi en essayant de ne pas verser dans le cas, ce qui n'est pas une chose simple. Ce sentiment d'éternisation de l'analyse, je l'oppose au sentiment de hâte qui m'a saisi sans crier gare et m'a permis de quitter l'analyse. D'accord. J'étais en retard, mais...
Reprenez là.
Je reprends quoi ?
Ce sentiment d'éternisation.
Le sentiment, encore celui-là. Ce sentiment d'éternisation de l'analyse, je l'oppose au sentiment de la hâte, qui m'a saisi sans crier gare et m'a permis de quitter l'analyse. Je serais bien incapable de donner une durée chronologique à ce temps-là. Je me suis perdu. D'autant que ce ne fut pas un temps de silence. L'analyse, les associations, les rêves, les constructions se succédaient tout en éprouvant un sentiment d'usure très fort, accompagnant ce travail de la cure. Il s'agissait donc plutôt pour moi d'une position par rapport à l'analyse elle-même. Sous la plume de certains collègues, je note ça et là que la fin ne se fait pas par l'usure. C'est bien ce qui ne pouvait pas valoir comme conclusion. Pourtant, je ne pouvais pas y consentir. Mais quand même, quelque chose d'usé est bien en lien avec l'usage qu'on en a fait. L'analyse, comme vêtement usé mais auquel on tient, qu'on ne peut jeter alors qu'il ne nous sert plus, vient peut-être faire le pendant à ce que Lacan évoque du temps qui fait étoffe au dire dans Radiophonique. Jouant de l'équivoque entre texte et textile, il sous-entend combien le temps pour se dire est effet et texture d'où se produit la jouissance. Et c'est du se dire perpétué que la jouissance trouve parfois à résister à la conclusion qui mettrait un terme, comme évoque Colette Sauveur. On dit bien user jusqu'à la corde. Le tissu usé de l'analyse laisse apparaître la trame, les nœuds qui pourtant ne disent rien des trous qui s'y trouvent. Nous retrouvons donc, au terme de l'analyse, ce qui, dès le début, la cause, soit ce qui a défailli à s'avérer. C'est l'analyse elle-même qui s'use et laisse apparaître ce côté suspect du savoir, comme le dira Lacan dans le séminaire Le Moment Conclu. Je me souviens vraiment bien de cette phrase lancinante qui me venait à cette époque. L'analyse, ce n'est plus pour moi. C'était une évidence, mais l'équivoque était aussi terrible, puisque rien ne me disait que j'allais continuer moi aussi à tenir dans ce discours-là pour d'autres. Qu'est-ce qui n'était plus pour moi? Cette question n'est pas sans lien avec ce qui reste au terme de l'analyse, voire ce qui reste de l'analyse elle-même dans l'après-coup de la sortie. Paradoxe saisissant entre les années passées sur le divan et ce que cette expérience laisse comme trace, qui se réduisent à des moments qui font coupure. Ainsi, deux moments se découpent du reste dédié de l'analyse. Le premier moment est celui où je saisis en un éclair la place que j'occupe dans un renversement de perspective d'une scène maintes fois répétée et déchiffrée. Position d'attente, regard fixé sur le vide du dehors, attendant l'arrivée, la présence qui viendrait contredire la certitude de l'angoisse. Ce qui me reste de cette scène répétée depuis l'enfance, c'est ce que j'ai réalisé au cours d'une séance. L'absence fixe ma place. Place immobile, silencieuse, convoquée comme objet, là où je me pensais sujet. Et pourtant, ce curieux sentiment d'indifférence qui sanctionnait la fin de cette attente, lorsque l'objet tant attendu apparaissait dans le vide de l'absence, aurait pu me mettre sur la voie. Mais il faut le temps. Le moment de conclure. Deux événements viennent accélérer le cours de l'analyse. Le premier, je me retrouve témoin, quasi-spectateur, au cours d'une conversation que j'ai avec quelqu'un, témoin d'un dire, le sien, qui concerne un autre que moi, et qui déborde le cadre de notre discussion. Je réalise que c'est parce que je suis là que c'est dit, et que ma position silencieuse le fait résonner. Le second, à quelques jours d'intervalle, je suis à nouveau à cette place de témoin lors d'un événement familial, un dit qui concerne un autre, mais qui cette fois porte une énigme, qui attend une réponse, alors que lors du premier événement, cela se passait de moi comme sujet. Peu importe ce que j'ai fait, dit ou pas, dans l'après-coup de ces deux événements, qui se sont solidarisés alors que le contenu en était radicalement différent. Je réalise la place que j'occupe dans ces deux scènes qui entrent en collision avec le premier moment évoqué. Que ce soit le trou de l'absence ou un dire qui fait fraction, ma place est la même. Il s'agit, en me traitant là, posté sur le bord, de tenter d'obturer par ma présence même ce qui s'ouvre inévitablement. place de complicité, où je ne me reconnais pas comme sujet, tellement prompt depuis longtemps à interroger l'autre. Je ne me reconnais pas et en même temps c'était bien moi, ce complice du silence qui me rappelle une scène de l'enfance où je faisais taire celui qui allait dire l'inentendable, toujours déjà su, mais informulable, pour moi, comme pour l'autre maternel. Par ma seule présence là, je protégeais l'autre de se dire à quoi rien ne pouvait faire réponse. Alors ces événements n'ont rien d'exceptionnel. Ils dévoilent la même structure que ce qui s'est répété au cours de ma vie et de l'analyse, m'obligeant à certaines stratégies pour ne pas rencontrer l'angoisse, mais bien des fois en vain. C'est donc la même chose que je rencontre. Cependant, ce n'est pas l'affect d'angoisse qui surgit, mais plutôt un sentiment d'urgence. Là où était l'angoisse, la hâte advenue. À partir de ces deux événements, je peux décider de ma sortie, là où l'angoisse ne produisait qu'une relance de la vérité douteuse, avec comme prime l'accalmie et la satisfaction du déchiffrage. Ce qui pousse tout au long de l'analyse, c'est le trauma initial, tant qu'il s'implique dans le symptôme et auquel le sujet est constamment ramené, comme le rappelle Louis Iscovitch. C'est ce qui pousse à dire, lors des moments d'ouverture de l'inconscient, cela peut être cause de l'angoisse lors des moments de fermeture liés au surgissement de l'objet titan. Dans le séminaire encore, Lacan évoque la fonction de la hâte, qu'il articule à l'objet petit a qui la tétise. Ainsi, l'angoisse comme la hâte sont deux effets de l'incidence de l'objet titan. Dans les deux cas, nous repérons cette fermeture de l'inconscient et l'émergence d'un réel avec son effet de certitude. Certitude du manque dans l'angoisse et certitude de faim dans la hâte. Certitude de faim à la condition cependant que la hâte ne se fasse pas complice de l'imaginaire. En effet, dit Lacan, la fonction de la hâte n'est correcte qu'à produire ce temps, le moment de conclure. Le moment de conclure sanctionne la sortie de cette logique langagière où le sujet de l'inconscient et sa compagne de jouissance trouvent abri. C'est donc une autre logique que celle du temps commandé par le fonctionnement du signifiant qui prend le relais. Colette Solaire réserve l'expression « temps logique » au temps qu'il faut pour conclure malgré l'incomplétude de l'autre, là où l'inconscient lui-même ne sait pas. Cette conclusion met un terme à l'analyse, elle redonne en séquence finie, fait nuage sans lequel il n'y aurait ni instant de voir, ni temps pour comprendre. Le savoir manque donc du début à la fin. C'est cette faille qui a permis l'embrayage de la parole, liant sans cesse le sujet à l'autre supposé savoir. Mais il doit pouvoir conclure à partir de ce qui n'est pas su, précisément là où le savoir manque, au sujet comme à l'autre. Le sophisme des trois prisonniers que Lacan articule en 1945 dans le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, met particulièrement en lumière ce point-là. Il s'agit de sortir de prison à la condition de s'affirmer dans un « je suis noir ou blanc ». L'action des trois prisonniers s'ordonne sur celle des autres. C'est un calcul intersubjectif qui interroge cette dimension de l'autre comme lieu du savoir. Prenons A. Comme les deux autres, il doit conclure sur son identité qui est hors de sa portée puisque le sujet ne sait pas la couleur du disque qu'il porte dans son dos. Pour ce faire, il établit son raisonnement à partir de la conduite des autres, B et C, à qui il va attribuer un raisonnement hypothétique pour pouvoir conclure sur lui-même. Mais cette solution parfaite du sophisme ne satisfait pas Lacan puisque les trois prisonniers peuvent faire le même raisonnement et sortir simultanément fort des mêmes raisons de conclure. Or, il en faut un seul à sortir de la prison. Lacan adjoint une autre dimension qui inclut le temps, celle de l'épreuve du doute qui produit une hésitation et des temps d'arrêt et que Lacan nomme notion suspendue. Lacan met donc en évidence une logique de l'acte qui prend le pas sur la logique signifiante et qui se fonde à partir d'un temps d'arrêt d'une coupure. Je ne déplie pas ce soir en détail cet apologue des trois prisonniers, mais je vous renvoie spécialement aux deux textes de Michel Bousset-Roux et de Marie-Noël Jacques-Duvernay, qui l'ont particulièrement bien analysé. Donc les deux textes, c'est « Attends », ça c'est Michel Bousset-Roux, c'est dans « Hétérité 3 », et Marie-Noël Jacques-Duvernay, « C'est impossible malgré tout, je le fais », dans la revue sur la Carnia numéro 7. Ce que je retiens de ce sophisme, c'est précisément cette dimension d'escension que produisent ces temps d'arrêt pour le sujet calculateur. Deux temps d'arrêt sont nécessaires dans ce progrès logique. Le même point est rencontré deux fois par le sujet, et c'est ce qui va lui permettre de quitter le mode de calcul intersubjectif et de poser l'acte final de conclusion qui anticipe sur l'assertion. Il s'agit dans la hâte de ne plus être en retard sur l'autre, soit sur sa propre parole, sur son énonciation. Lacan repère comment le pari sur le temps permet au sujet de sortir du doute et de s'affirmer, c'est-à-dire de quitter la sphère de l'articulation signifiante par l'acte de sortie. N'est-ce pas en effet dans ces moments d'arrêt, de fermeture, que le réel revient à la même place ? N'est-ce pas ce point auquel le sujet est ramené inéluctablement au fil des tours qu'il fait dans l'analyse. La fin de l'analyse, c'est quand on a deux fois tourné en rond, c'est-à-dire retrouvé ce dont on est prisonnier, dit Lacan. Nous retrouvons dans cette formule de 1978 les deux temps d'arrêt du sophisme des trois prisonniers. Pourquoi deux tours ? Sans doute faut-il, pour rencontrer son point de départ, faire un second tour. En effet, à la fin du premier tour, c'est un point d'arrivée. Il faut répéter ce départ pour bien en prendre la mesure. Mais au bout de ces tours, plus question de dire si on est noir ou blanc. Il s'agit de repérer les traces, soit le symptôme que le symbolique, le langage a produit. Lacan réutilise le sophisme des trois prisonniers, mais cette fois, ce n'est plus pour s'affirmer, mais pour voir ce dont on est captif. La face de réel de ceux dont on est empêtré. Plus de sortie de prison qui vaille. On ne se libère pas comme ça de son symptôme, qui n'est finalement rien d'autre que le disque que l'on a dans le dos. Mais pour savoir pourquoi on est empêtré, prisonnier, captif, il faut pour cela une opération, une coupure qui permette une séparation. C'est une séparation d'avec l'autre comme d'avec soi-même qui permet de conclure à l'irréductibilité de l'un à l'autre. C'est donc encore que Lacan donne un prolongement au sophisme. Les trois prisonniers deviennent 2 plus A dans la mesure où le sujet calculateur se réduit à l'objectita sous le regard des autres. Il est l'enjeu de leur pensée. Poursuivant son raisonnement logique, Lacan réduit l'ensemble des deux autres à du 1, du point de vue de A. Nous avons donc 1 plus A. Nous sommes loin de l'intersubjectivité des trois prisonniers, et cette logique isole un sujet, si on peut dire sujet, réduit à une désubjectivation au plus bas degré, comme le dit Lacan. Réduit au petit A, soit à l'inadéquat du rapport de l'un à l'autre. Au cours de l'expérience que j'ai faite de la hâte, j'ai conclu sur ce dont je me voyais captif. Là, peu importait l'autre, son désir, ce que je pouvais supposer se jouer pour lui et à quoi je me devais d'avoir une réponse. Dans l'expérience de la hâte, l'aperçu de ce dont le sujet est captif se produit dans l'acte même de se séparer, lorsque le sujet n'articule plus aucune hypothèse, lorsqu'il se réduit à l'objet hâtif. Rien d'autre n'avait d'importance que ce constat de ma place, venant obturer la coupure, soit la différence sexuelle, au prix d'un silence. Silence sur moi-même plus que sur l'autre, qui révèle ce à quoi je me réduisais, pour faire semblant d'un rapport, pour faire semblant d'un, connaîtrait le deux. Dans l'après-coup de la sortie, et pendant longtemps, je me suis posé la question de la réelle importance de ces événements finalement si contingents. Cela aurait bien pu ne pas arriver. qu'est-ce que cela doit au hasard finalement ? Curieux de se dire que la fin tient à ça. En effet, ces deux incidents ne sont rien d'autre qu'une répétition. La répétition demande du neuf, du différent, du hasard, là où on pense au retour du même, dit Colette Sauvage. La répétition de ne se produire qu'une fois devient nécessaire, c'est-à-dire ne cesse pas de s'écrire. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, ce sont les 1 du trilinaire qui peuvent être n'importe quoi. Ce qui est à répéter, c'est le nom marqué du trauma. Au fil des tours de l'analyse, que se passe-t-il, sinon que quelque chose cesse de ne pas s'écrire ? Quelque chose s'écrit, soit le 1 sous toutes ses formes. De repérer ce 1 qui peut être l'un de l'objet, l'un du dire, du parler-être, ou le 1 de la jouissance phallique, de réitérer au cours de l'analyse ce qui fait trace du 1, vaut pour la démonstration du 2 impossible, si vous connaissez Solaire dans le présent perpétué de la répétition. Démonstration de l'impossible à écrire le 2, soit le sexe qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Le « ya » de l'un est donc un nom du réel qui devient équivalent à « ya » la castration. Alors, quelque chose s'écrit de ce « un » qui sépare de l'autre. Notons au passage que lorsque quelque chose cesse de ne pas s'écrire, c'est cela la contingence. Mais Lacan avertit dans le moment de conclure que c'est par artifice que le réel apparaît. Cette écriture elle-même est un artifice puisqu'elle est liée au fait qu'il y a de la parole, un dire. La question de la hâte est aussi liée à ceci qu'il y a le langage, qu'il y a l'inconscient et que l'affirmation peut se perdre jusqu'au prochain tour. Puisque l'inconscient joue aussi bien d'un autre sens, soit à partir de l'impossibilité dont le sexe s'inscrit dans l'inconscient, à maintenir comme désirable la loi dont se connaît se connote l'impuissance à jouir. Nous retrouvons là le savoir suspect, puisqu'il y a toujours le symbolique, le langage, l'inconscient, et que l'on s'est laissé par le langage suggérer toutes sortes de choses. Ça c'est Lacan, et ça c'est après le fini, et c'est le moment de conclure. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête précisément là, qu'on s'en tienne à ce qui s'écrit là, en ce moment précis qui menace toujours de se perdre, du fait même d'être parlé ? Cela ne se fait pas sans une autre variable, un élément de décision, une variable non logique cette fois.